Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur l'antenne de Radio Immo. Dans ce nouvel épisode, j'accueille Thibaut Gallo-Lavallée. Bonjour.
Bonjour à vous.
Vous êtes notaire à Neuilly-sur-Seine. Merci de répondre gentiment à mes questions. Avec vous, on s'intéresse au secteur de la santé, de l'immobilier en Ile-de-France et plus particulièrement à Paris et en Petite Couronne. Première question, premier rituel, comment s'est comportée finalement l'activité de l'ancien sur le troisième trimestre dans la capitale ?
L'activité de l'ancien est une activité qui est globalement baissière, mais qui baisse un peu moins que la baisse que l'on a enregistrée en début d'année. Donc une baisse qui se ralentit.
D'accord, donc c'est plutôt positif ?
C'est positif, mais ça reste une baisse.
Oui.
Donc c'est moins pire, comme on dit chez les enfants, mais c'est pas très bon quand même.
Bon, concernant les prix de l'ancien, comment est-ce qu'ils ont évolué et quelles sont également vos projections pour les prochains mois ?
Alors c'est très intéressant. Les prix de l'ancien au T3 se sont globalement stabilisés. Ce qui peut, dans un premier temps, être analysé comme une bonne chose. Néanmoins, quand on regarde un petit peu sur du plus long terme, on voit que les volumes baissent, les prix se stabilisent. Donc, un marché qui, potentiellement, dans les mois à venir, ne s'équilibre pas. Donc, une distorsion entre des acquéreurs qui n'achètent pas et des vendeurs qui ne baissent pas leur prix.
Quels sont les arrondissements de la capitale qui finalement restent les plus chers au mètre carré ? Est-ce que ça a évolué ou est-ce que ça reste toujours identique ?
C'est une grande stabilité pour les arrondissements les plus chers. Ça reste toujours le 6e et le 7e arrondissement qui sont largement en tête par rapport aux autres arrondissements. Donc plutôt globalement, 6e, 7e et les arrondissements centraux et les arrondissements périphériques un petit peu moins élevés.
Et à l'inverse, les arrondissements où ça reste le moins cher ?
Alors ce qui est assez terrible, c'est que les arrondissements les moins chers sont ceux qui connaissent les plus fortes baisses. Donc un écart de prix au mètre carré qui s'accroît entre les arrondissements centraux et les arrondissements périphériques.
Alors justement, j'allais vous poser la question du delta, justement, entre l'arrondissement le plus cher et le moins cher. Est-ce que les écarts de prix, effectivement, continuent de grimper, quoi ?
Les écarts de prix continuent à grimper, même si ces écarts de prix sont beaucoup moins élevés qu'il y a 20 ans. Donc on a connu une gentrification un petit peu de Paris intramuros. Et là, les écarts augmente très légèrement, mais pas de façon significative.
Si on s'intéresse maintenant à la Petite Couronne, sur 2 ans, dans quelle proportion finalement l'activité de l'ancien a reculé ? D'abord pour ce qui concerne l'achat d'appartements anciens, et puis ensuite on peut évidemment parler de l'acquisition des maisons anciennes.
Alors, les volumes de vente, c'est comme Paris. Les deux se suivent, Paris et Petite Couronne. On est sur 2 ans à peu près à moins 38%. Ce qui est quand même assez considérable, et moins 11%, comme le disait Élodie précédemment, par rapport à l'année dernière. Les perspectives, je crois que c'est votre question aussi, je pense que l'activité que l'on va connaître en 2025, c'est l'activité qu'on a connue en 2024. C'est-à-dire que je m'interroge même pour savoir si le rythme que l'on connaît, ce n'est pas le rythme que l'on va connaître dans les mois à venir pour toute l'année 2025.
Ah oui ?
Oui.
Et en Petite Couronne, comment est-ce qu'on veut évoluer les prix dans l'ancien ?
De la même façon.
De la même façon.
Strictement de la même façon.
Identique.
Identique. Après, on peut voir des petits écarts entre les communes, mais c'est pas significatif. La tendance est assez, malheureusement, homogène.
Et appartements et maisons, les communes, finalement, de Petite Couronne, où les prix ont peut-être baissé le plus sur le troisième trimestre ?
C'est assez homogène. Après, ce qui n'est pas facile, c'est que là, on rentre vraiment dans du micro-micro et on ne peut pas... suffit qu'il y ait 10 grosses maisons qui se vendent à un endroit, ce qui ne sera pas le cas le trimestre suivant. Et on a de façon un petit peu artificielle des hausses de prix qui ne reflètent pas vraiment le marché.
D'accord. Ok. Si on parle de Neuilly-sur-Seine, justement,
une commune que je connais bien.
Voilà, que vous connaissez bien, puisque vous y êtes installé. Comment se porte le marché sur place ?
Alors, le marché sur place à Neuilly est un marché qui résiste un petit peu mieux qu'à Paris, notamment. Même si Neuilly, c'est quasiment le 21e arrondissement de Paris. C'est des prix qui restent élevés, qui restent au-dessus des 10 000 euros, qui s'expliquent par une politique de la ville qui est constante, régulière depuis des dizaines d'années, une qualité de vie et une volonté de mieux se connaître. On connaît mieux son voisin, on connaît mieux son quartier dans Neuilly que dans Paris, où on se sent un petit peu de temps en temps perdu dans un certain anonymat.
Vous me disiez, et vous allez me le confirmer, mais finalement, il n'y a pas de différence notable sur les marchés de l'immobilier selon qu'on soit sur Paris capitale ou en petite couronne. Du similaire.
C'est vraiment très, très homogène. Malheureusement homogène, j'aurais tendance à dire. Ouais. Il n'y a pas Paris qui impulse et qui impulse dans un premier temps, la petite couronne dans un deuxième temps et la grande couronne dans un troisième temps. Alors pour la grande couronne, je laisserai Yann vous en parler. Mais en tout cas, pour Paris et la petite couronne, c'est très homogène, il n'y a pas d'écart.
Est-ce que, tiens, une petite question comme ça, les Jeux Olympiques ont pu avoir des retombées selon vous au niveau de l'immobilier parisien, ou c'est trop tôt de toute façon, quoi qu'il arrive, pour le dire?
Alors, je pense qu'il y a dû y avoir un petit impact dans ce sens que des clients pour ceux qui avaient le projet de vendre, ont attendu les JO peut-être pour mettre en location leur appartement, même si ça n'a pas été aussi mirobolant que ce qui était annoncé.
Oui.
Et mettre du coup leurs biens sur le marché là depuis le mois de septembre. Peut-être un effet rebond pour la rentrée, mais on voit que sur l'immobilier, l'impact des Jeux Olympiques a plutôt été sur les transactions négatif. Donc des clients qui n'ont pas mis leurs biens en vente, des transactions qui ne se sont pas faites, et peut-être une reprise, mais dans un premier temps, l'impact n'a pas été positif au niveau des prix. L'impact était positif au niveau de l'image de Paris. Ça, c'était très positif, un vrai engouement. Mais pour l'immobilier, moi, j'ai rien senti.
Ok. Bon, je ne sais pas si vous êtes un adepte de la méthode Coué, mais finalement, est-ce qu'on peut rester sur une note d'optimisme quand même, malgré tout, pour les mois ou 2025 à venir? Est-ce qu'il y a quelque chose à dire qui pourrait quand même dire que tout n'est pas si noir?
Tout n'est pas si noir. L'envie des clients est là. Il y a juste les éléments pour y arriver qui ne sont pas là. Les taux de l'immobilier, les taux d'emprunt qui vont arrêter de baisser, voire peut-être reprendre. Peut-être des acquéreurs qui, après 7 ou 10 trimestres de baisse, vont enfin acter une baisse et donc du coup arrêter de suivre la baisse, ce qui est catastrophique pour eux. Il vaut mieux devancer la baisse, sachant que le marché est baissier, pour vendre, plutôt que de suivre la baisse. Et à ce moment-là, le marché ne se fait pas et le bien ne se vend pas.
Merci beaucoup, Thibaut Gallo-Lavallée. Je rappelle que vous êtes notaire à Neuilly-sur-Seine. Merci d'avoir gentiment répondu à mes questions. Merci également à vous de votre fidélité et à très vite sur Radio Immo.